escalade. La Méridienne.
Allez, notre invité du jour, c'est Daniel Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'unité locale de la Croix-Rouge, l'unité locale beaujolaise.
Beaujolais-Val-de-Saône.
Pour être précis. Et alors, la Croix-Rouge, on la connaît bien, mais on peut peut-être quand même rappeler rapidement quelles sont vos activités sur le territoire.
Bon, sur le territoire, elles sont très variées. Bien sûr, il y a les activités d'urgence secourisme qui sont les plus connues, avec des formations grand public qui sont aujourd'hui en plein développement, parce que c'est quelque chose que l'on fait localement depuis un an seulement.
Ouais.
Mais non, énormément d'actions sociales. C'est-à-dire qu'on suit à peu près un peu plus de 800 familles à travers notre local de Villefranche et l'équipe qui les suit. On a une activité de maraude.
Ouais.
Donc dans la rue et dans les squats quand il y en a.
Ouais.
Nous avons aussi une activité de microcrédit. Nous aidons également les gens à se débrouiller un peu avec le numérique, avec une activité d'inclusion numérique. Nous avons depuis le mois de juin ouvert un nouveau service qui permet à des personnes de pouvoir de se connecter et de téléphoner à bas prix avec le partenariat qu'on a fait avec Emmaüs Connect.
D'accord.
Nous avons une très grosse activité de français langue étrangère.
Ouais.
Je sais plus combien aujourd'hui, on dépasse les 150 apprenants, plus une activité en direction des jeunes, qui sont à l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Et également des jeunes mineurs non accompagnés, différents types de mineurs. Nous avons depuis quelque temps une activité jeunesse en tant que telle, avec des jeunes qui agissent au sein de la Croix-Rouge et à l'extérieur.
D'accord.
Et ensuite, on a bien sûr notre boutique, hein, qui est un élément important dans notre dispositif, puisque elle regroupe plus de 25 bénévoles, une activité de tri assez monumentale.
Mmh.
J'en ai sûrement oublié.
Parce que vous faites beaucoup, effectivement.
On fait beaucoup et on se développe beaucoup à l'heure actuelle sur le nord du département.
Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a un local qui allait s'ouvrir à Beaujeu, c'est ça?
Ouais, tout à fait. On a signé un bail avec la ville de Beaujeu, l'ancienne bibliothèque, donc c'est plutôt bien situé, plutôt bien fait. Nous allons l'aménager pour à la fois ouvrir une vestiboutique et puis lancer de nouveaux projets sur le secteur.
Ouais. Et tout ça fonctionne grâce à la solidarité, principalement. Et c'est quoi les revenus pour faire fonctionner toutes ces actions? Comment est-ce que fonctionne la Croix-Rouge, en tout cas cette unité locale?
Alors, on va parler de la nôtre, puisque les unités locales ne sont pas identiques, n'ont pas toutes les mêmes activités. J'ai oublié l'activité prison justice, quand même, qui pour nous est importante, avec un gros projet que l'on a cette année, dont je pense qu'on viendra vous parler à ces jours.
D'accord.
Donc, une autre activité que j'avais oubliée. Donc, quels sont nos revenus? Alors, nos revenus sont d'abord les revenus liés à la vestiboutique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on a une vestiboutique qui a un chiffre d'affaires qui correspond donc à peu près à 50% de nos revenus. Et le reste se répartit entre quelques subventions. On en a au titre de l'agglomération de Villefranche, dans le cadre notamment de la politique de la ville. On est subventionné pour notre action sur le numérique, soit par l'agglo, soit par l'État. On a cet été organisé une colonie de vacances dans notre centre de Bodane. On a une partie du financement qui est assurée par l'agglo, mais aussi par le Lions Club, par exemple. Donc on a effectivement des financements privés qui nous arrivent. On a eu très récemment une belle somme qui nous a été donnée par quelqu'un de la région de Beaujeu, qui nous aidera beaucoup. Voilà, principalement, je dirais que nous avons également des activités urgences secouristes qui nous, entre guillemets, qui nous rapportent, qui sont payantes et assurées par des bénévoles. D'accord. Donc, même si elles sont relativement bon marché, 60 euros pour passer un PS1, c'est relativement bon marché. Ouais. Mais c'est ça 60... nous fait un minimum de revenus qui nous permet d'entretenir très largement notre structure, puisqu'on a des locaux qu'il faut amortir, entretenir, des véhicules également qu'il faut payer, rembourser, réparer, y mettre un peu de carburant dedans. Plus, bien sûr... les activités bénévoles, les collectes également qu'on fait sur la voie publique. Tous les ans, on essaie de venir vous voir à l'occasion de nos journées nationales. Donc, on fait des collectes sur la voie publique qui nous rapportent directement un petit peu d'argent. Ça, c'est pour les revenus. Mais au-delà de ça, on a énormément de dons qui nous sont amenés par les particuliers ou les entreprises. Et dont, d'ailleurs, la Vesti Boutique est un des gros pourvoyeurs. Puisqu'on reçoit des dizaines de tonnes de textiles que l'on trie.
Ils viennent d'où ces textiles? C'est les gens qui vous les amènent directement?
C'est très majoritairement de la seconde main particulier. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'être ouvert tous les jours. Donc les gens peuvent venir tous les jours apporter... et même maintenant, le samedi matin, depuis le début de l'année, ils peuvent apporter des vêtements, mais aussi du petit bric-à-brac, de la vaisselle, des choses comme ça, des choses qu'on peut remettre assez facilement aux familles quand elles viennent. Et ça nous permet à la fois d'être un acteur du recyclage et de la seconde vie, un acteur important. On a d'ailleurs répondu à un appel à projet tout récent sur la seconde vie elle-même. Ensuite, on reçoit des dons des entreprises. Les dons des entreprises sont généralement des vêtements neufs. Mais pas seulement, on a aussi des collectes au sein des entreprises. L'Institut Vermorel, qui n'est pas très très loin d'ici, organise deux collectes par an pour la Croix-Rouge. Ce sont des choses qu'on valorise, entre guillemets, mais qui ne sont pas en lien direct avec le budget, mais qui représentent des dizaines de milliers d'euros concrètement, que nous redistribuons gratuitement pour la plupart aux personnes qui viennent nous voir.
D'accord. Donc ouais, le rôle de la Vesti Boutique, il est quand même assez important.
Il est vraiment important. Il a donc cet aspect seconde vie, l'aspect vestiaire, parce que s'il n'y avait pas la Vesti Boutique, il faudrait qu'on achète tous les vêtements, déjà, pour dire les choses telles qu'elles sont. On achète une partie, mais le vestiaire pour les maraudes, pour les gens qui sont à la rue, et pour les 800 familles. Les 800 familles, vous multipliez ça par 3 à peu près, pour avoir une idée du nombre de personnes que ça représente, que généralement on habille de pied en cap, parce qu'elles n'ont pratiquement aucun revenu.
Et c'est que une boutique vestimentaire, c'est que des vêtements, si on peut pas...
Non, on a de la petite brocante. On a de la petite brocante, des bouquins. C'est une activité qui est en très forte hausse. On a une boutique qui marche bien, qui est en croissance à l'heure actuelle. On a très largement redépassé les chiffres d'avant Covid. Mais on a la brocante qui a un rythme de croissance vraiment très très soutenu. On s'aperçoit que ça marche relativement bien. On commence à faire un petit peu de recyclage d'objets. Ou du reformatage de textiles également. On commence effectivement, on a une couturière qui fait ça. On a aussi un réfugié qui est ingénieur dans son pays qui nous répare des objets électroniques, etc., capable de travailler sur des cartes, etc. On commence cette activité, c'est nouveau pour nous, mais on commence à ce qui nous permet de pouvoir moins envoyer à la casse les objets qu'on nous amène, parce qu'on a quand même une activité. On ne nous amène pas que du top.
Il y a des fois de la seconde main qui...
C'est la seconde main qui vient casser parfois. Mais on a une activité, j'ai oublié de le dire, c'est en direction des enfants, notamment on arrive à la période de Noël. Et là, pour nous, ça commence à être l'effervescence. On fait énormément de collectes.
De jouets.
Il y en a beaucoup dans les entreprises, il y en a dans les lycées qui ont lieu, qui sont souvent auto-organisés, nous on se charge de la logistique. Et après, on a tout à monter, c'est-à-dire préparer les cadeaux pour les enfants, etc. On essaie de s'appuyer pour ça sur notre équipe jeunesse. Mais pas seulement, c'est un vrai travail important qui a lieu à ce niveau-là.
Et j'ai l'impression que du coup, l'unité locale se développe. Il y a une antenne qui va ouvrir à Beaujeu. Il y a cette vestiboutique qui s'agrandit. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de monde pour le faire fonctionner et de plus en plus de bénévoles.
Absolument. On très régulièrement, donc on lance des appels à bénévoles. Là, par exemple, notre boutique, on va l'ouvrir exceptionnellement le 21 novembre pour faire une journée solidarité sur notre boutique qui se trouve, je le rappelle, on l'oublie souvent, dans la lagune, c'est-à-dire derrière Decathlon et Cultura.
Ouais, c'est ça.
C'est plus facile de le positionner comme ça, quand on connaisse mieux que l'adresse exacte.
Les bons points de repère, c'est Route de France, je crois, c'est ça.
C'est Route de France, mais le mieux, vous faites comme si vous alliez à Decathlon et Cultura, tout le monde le connaît, c'est juste derrière.
Très bien.
C'est juste derrière, il y a un parking, il n'y a pas de problème pour se garer, on est ouvert tous les jours.
Ouais.
Et oui, effectivement, on se développe. Donc sur le nord du département, donc avec l'ouverture d'une boutique, on l'espère, si tout va bien, pour les Sarmentelles.
D'accord.
Beaujeu. Nous avons aujourd'hui des cours de langue sur Beaujeu, Montsol, Belleville, alors que nous n'avions que sur Villefranche jusqu'à présent. Donc on a effectivement une activité qui se développe. On a un partenariat avec le Secours Populaire sur le nord du département. Pour le transport des paniers repas, où on fait la logistique, le Secours Populaire fournit les paniers.
Okay.
Donc voilà, effectivement, on se développe et on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles pour pouvoir ouvrir le samedi, par exemple, tous les samedis, notre boutique de Villefranche.
Ouais.
Donc il nous manque encore quelques bénévoles. Il nous faut des gens qui alimentent, qui accueillent les clients, qui tiennent la caisse. Bon, tous les talents sont les bienvenus. Et bien sûr, on recrute pour la future boutique de Beaujeu. On a cette semaine une réunion avec déjà 17 nouveaux bénévoles.
D'accord.
qui veulent s'investir sur Beaujeu, en plus de ceux qui y sont déjà à l'heure actuelle.
Il y a du monde qui a envie de s'investir.
Oui, je pense qu'on dit souvent que les gens sont individualistes, ne sont pas solidaires, etc., etc. Bon, il nous appartient à nous de leur donner le cadre, la proposition et le cadre qui leur permettent de s'épanouir. Parce que c'est quand même assez épanouissant de travailler avec d'autres pour les autres.
Ouais. Il y a le rapport de la pauvreté du Secours Populaire qui est sorti début septembre, comme chaque année.
Comme chaque année, oui.
Avec des chiffres qui sont de plus en plus inquiétants. Enfin, la pauvreté en France grandit. Concrètement, vous qui êtes en contact avec des gens qui ont besoin d'aide, etc., comment est-ce que vous voyez ces chiffres et comment est-ce que ça se concrétise sur le terrain ?
Alors, avec des aspects paradoxaux, pour nous, ce ne sont pas des statistiques.
Hein. Ouais,
ce sont des personnes qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Je vais vous donner deux exemples. Pour la première fois, nous avons ouvert tout le mois d'août. Nous étions les seuls, je crois, à être ouverts sur le mois d'août et ça n'a pas arrêté de défiler.
Ouais.
Ça n'a pas arrêté de défiler avec des situations de détresse quand même assez impressionnantes. Des personnes à la rue, on trouve qu'il y en a de plus en plus. Et on y trouve des familles avec des difficultés énormes pour les reloger, puisque le parc de logement est pour le moins tendu. On a effectivement des demandes de plus en plus importantes, de plus en plus de familles qui s'inscrivent chez nous, avec toutefois une limite. Une limite que l'on constate, c'est que pour venir à la Croix-Rouge, bon, si on a besoin d'une urgence, il n'y a pas de souci, on l'assure, c'est notre accueil inconditionnel. Pour autant, les activités que l'on mène sont faites sur prescription de travailleurs sociaux.
Ouais.
Quelle que soit la nature, les travailleurs sociaux. Et on s'est rendu compte que une partie de nos aides ne sont pas dépensées. Alors, ça nous a interpellés assez fortement. Ce sont des aides financières. Hein.
Ouais, ouais.
Les aides financières ne sont données que sur instruction d'assistants sociaux, sur reste à vivre, etc., etc. C'est pas le public traditionnel qui vient vers nous. Et ce qu'on constate, c'est que après avoir enquêté, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'assistance sociale. D'accord. Soit parce qu'on connaît pas ses droits, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'il est difficile de la contacter.
Ouais.
Donc ce qui pour nous déjà est quelque chose d'important dont on mesure mal, puisque effectivement cette question-là elle se pose vraiment, quoi. Donc alors c'est vrai qu'on va vers les gens dans les maraudes, dans des choses comme ça, là on les contacte, on les connaît, ils nous connaissent, on n'y va pas seul, on est avec la halte qui a un service d'accompagnement. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que l'on aille effectivement plus profondément dans là où il y a effectivement des poches de pauvreté et des problèmes de mobilité, parce que pour aller voir son assistant social, faut être capable de se déplacer.
Ouais.
Et donc ça, ces aspects-là, on va essayer effectivement de se développer. C'est ce qu'on compte faire sur le nord du département en particulier, où il y a des gros problèmes de mobilité,
ouais.
Et où on va y mettre des moyens.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient le droit à des aides, mais qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ne passent pas par les services sociaux et que...
Absolument, entre ceux qui ne savent pas les aides auxquelles ils ont droit. Ceux qui savent, mais ne savent pas comment s'adresser. Ceux qui ont honte de la réclamer. Bon, les chiffres sont connus. Hein, ils sont 30%, 30% des aides qui ne sont pas attribuées en moyenne. On travaille sur une moyenne. Nous, notre objectif, il est de rendre concret le fait que tout le monde a des droits. Il y a un grand, ça a été annoncé avec forte clameur et légitimement qu'il fallait plus qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à leurs droits, que les droits s'inversent automatiquement. Mmh. C'est pas si simple que ça. Il faut pouvoir, dans tous les cas, souvent constituer un premier dossier. Il faut les aider à le constituer. Si on n'a pas l'adresse mail et si on ne sait pas servir l'Internet, ben je vous dis bonjour l'ambiance pour arriver à acquérir ses droits. Donc c'est on essaie d'avoir une approche globale de la personne, mais pour cela, il faut effectivement qu'elle ouvre la porte ou qu'on ouvre sa porte.
Bien sûr, d'accord. Voilà à quoi ça ressemble concrètement alors, la situation actuelle en France. Vous me parliez également d'une bonne nouvelle avant qu'on ouvre les micros, enfin une bonne nouvelle d'un scoop pour la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Oui, d'une part, je vous ai annoncé qu'on allait ouvrir une boutique sur Beaujeux, mais également on a candidaté sur un grand projet qui s'appelle Mieux manger demain.
Ouais.
Le gouvernement a lancé un certain nombre d'initiatives aujourd'hui pour permettre effectivement de lutter contre la pauvreté et notamment la précarité alimentaire.
Mmh.
Mais au-delà de la précarité alimentaire, il y a aussi la qualité de ce que l'on mange et à quel prix on le fait. Mmh. C'est particulièrement vrai avec une inflation à 15% sur les produits alimentaires. Ouais. Ceux qui ont le moins, c'est ceux pour qui lequel l'alimentation est le plus important.
Mmh.
Donc on se dit, tout le monde a droit à manger correctement.
Ouais.
Et donc à partir de là, on a répondu à un appel à projet pour le nord du département. On va mener des actions de sensibilisation et de formation au mieux manger.
Ouais.
On va essayer de le faire en partenariat avec d'autres acteurs. On a déjà le groupe populaire qui est d'accord pour travailler avec nous. On ira en voir d'autres. Nous ne serons pas la banque alimentaire. C'est pas notre vocation sur cette zone. On l'est ailleurs. Hein.
Ouais.
Et sur notre zone, on n'a pas l'intention de le faire. Mais effectivement, développer et sensibiliser les publics de toute nature, qu'ils soient de l'enfant jusqu'aux personnes âgées, entre guillemets, à la question du mieux manger, tout en tissant des liens forts avec les réseaux de ceux qui font de l'agriculture raisonnée, voire bio, sur l'ensemble du secteur, et permettre à plus de personnes qui en seraient exclues d'y avoir accès.
Ouais.
Et ainsi de s'y retrouver en termes de pouvoir d'achat également.
Mmh. Ben, c'est un vrai problème, ça fait partie des chiffres qui ont été donnés par le rapport du Secours Populaire. Il y a 43% des Français qui se privent de fruits ou légumes frais parce que c'est trop compliqué d'accès ou trop cher. Et 32% qui ne sont pas en mesure de faire 3 repas par jour. Donc c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, il y a un vrai boulot à faire là-dessus.
C'est une vraie problématique, on le voit, nous, dans notre... comme je vous l'ai dit, nous ne faisons pas de banque alimentaire sur le secteur-là, puisque sur Tarartisi, la Mure, ils le font. Hein.
Mmh.
Et sur notre secteur-là, nous n'en faisons pas, et nous travaillons en partenariat, et on voit bien que sur le Beaujolais, notre partenariat avec le Secours Populaire est en assez forte augmentation,
ouais.
Et ça ne fait, à mon avis, que commencer, dans la mesure à partir du moment où on le fait savoir, où on met les moyens, on commence à être contacté. Donc voilà, on a ce beau projet qui nous a été accordé en termes de financement et pour 3 ans. Donc on va pendant les mois qui viennent commencer à travailler cette question-là en matière de réflexion en lien avec le plan territorial alimentaire qui est lieu sur la CCSB.
Ouais.
On va travailler avec eux là-dessus. On a déjà été dans les travaux préparatoires. Donc voilà, c'est une belle ambition que nous avons. Hein.
Mmh.
Et là, aujourd'hui, mon urgence, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde le 21 octobre.
Oui, on n'a pas encore parlé, il y a ce rendez-vous qui est donné.
Parce qu'effectivement, pour nous, c'est un rendez-vous important, c'est un test. Hein, si on arrive effectivement à ouvrir les samedis, ça peut être de l'ordre de 10 à 15% de revenus supplémentaires.
Mmh.
10 à 15% de revenus supplémentaires, ça peut être une partie une partie des moyens qu'on peut accorder à ce qui est en train de se passer au niveau de l'inflation.
Ouais.
C'est un lien très très symétrique dans la matière.
Donc le rendez-vous, c'est effectivement ce samedi 21 octobre de 14h à 17h30, ouverture exceptionnelle de la Vestiboutique. Vous avez donné l'adresse Route de France, mais c'est plus facile de se rappeler que
ça. Voilà, c'est 1860 Route de France, c'est pour les
mettre dans le GPS.
On peut très bien aller derrière ces deux grandes enseignes avec lesquelles pour certaines nous sommes en partenariat, puisque on a encore cette année eu une très grosse collecte de produits scolaires qu'on a pu distribuer aux familles que nous accompagnons.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Les rendez-vous sont donnés et puis les micros vous sont toujours ouverts pour venir nous parler de votre actualité. Donc vous revenez quand vous voulez.
Merci Radio Collab et à toi.
À très bientôt.
Calade. La Méridienne.